L'annonce a été faite hier à 19h. Elle a immédiatement fait le tour du monde. Une équipe internationale dirigée par le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin a donc découvert au Maroc les plus anciens ossements d'Homo sapiens, fossiles datés de plus de 300 000 ans et qui font donc reculer les origines de notre espèce de 100 000 ans. Un bouleversement dans le récit de l'histoire humaine qui fait aujourd'hui la une de la revue Nature et une extraordinaire avancée dans les connaissances concernant les hommes modernes. À l'occasion de cette découverte majeure, La Tête au Carré consacre donc cet après-midi toute l'émission Homo sapiens. Et puis nous poursuivrons également la journée à 17h avec un Facebook Live depuis le Collège de France. Et dans les deux cas, vous pouvez nous rejoindre avec dès maintenant vos questions, vos messages. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Stéphanie Texier réalise cette Tête au Carré préparée par Chantal Le Montagny avec Benoît Tonson.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Jean-Jacques Hublin.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes paléoanthropologue à l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne, professeur au Collège de France à la chaire de paléoanthropologie et c'est donc vous qui avez dirigé cette équipe internationale à l'origine de la découverte marocaine des plus anciens fossiles d'Homo sapiens. Je salue également Sophie Bécherel de la rédaction de France Inter qui est à mes côtés pendant toutes ces spéciales pour vous poser des questions sur ces restes d'Homo sapiens. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Jean-Jacques Hublin, à quoi ressemble la vie d'un découvreur qui va chambouler tous nos manuels scolaires là ?
Alors d'abord, je voudrais dire que c'est une affaire de collaboration entre mon institut et puis une institution marocaine. Et donc, je ne suis pas le seul chef dans cette affaire-là.
J'ai parlé de votre équipe.
J'ai un co-directeur, un partenaire, un ami marocain qui s'appelle Abdelwahed Benser.
Il est avec vous au Collège de France il y a deux jours.
Voilà, qui est venu en France il y a quelques jours et qui travaille à l'Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine à Rabat, qui est un endroit où je me rends souvent pour travailler. Et donc, la vie d'un découvreur d'Homo sapiens, c'est pas mal de visites au Maroc, ce qui est un endroit où j'aime beaucoup aller. J'hésite souvent entre déclarer que l'Allemagne est mon second pays ou le Maroc, donc ça change. Mais les deux.
Donc la vie d'un découvreur, ce sont des voyages sur le terrain et l'annonce d'une découverte. Alors dans la vie d'un découvreur, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce que ça représente ?
C'est la deuxième fois dans ma carrière que je fais la couverture de Nature. Et la première fois, j'étais complètement pas préparé, en fait. Mais cette fois-là, un petit peu mieux. Mais c'est vrai que c'est une avalanche médiatique assez extraordinaire. Et d'autant plus que c'est le produit du travail donc d'une équipe internationale. Et donc des gens qui aujourd'hui travaillent dans des institutions comme l'Université de New York ou l'Université de Kent en Angleterre ou qui sont en Italie. Pour moi, ce qui est vraiment quelque chose qui rend cette étude particulièrement, je dirais, chère à mon cœur, c'est que en fait les co-auteurs du papier principal, celui sur les restes humains, sont des gens qui ont tous travaillé dans mon équipe à Leipzig à un moment ou à un autre, qui ont été étudiants ou qui ont été post-doc et qui maintenant font des carrières à l'international ailleurs.
Donc vous êtes un homme très heureux aujourd'hui, 8 juin 2017.
Oui, absolument. Je suis heureux pour le Maroc. Parce que je trouve que la contribution du Maroc à la compréhension de l'évolution humaine et de la préhistoire a été grandement sous-estimée et le pays reprend sa place, si je peux dire. Et puis pour mes collègues, dans les auteurs de l'article, il y a une jeune étudiante qui s'appelle Inga Bergman, qui m'a envoyé un petit message tout à l'heure pour me montrer que dans sa province, au fin fond de l'Allemagne, le journal local parlait de ce travail. Elle était extrêmement contente de ça et je suis contente pour elle.
C'était quoi votre première couverture pour Nature alors ?
Alors ma première couverture pour Nature, c'était Neanderthal Fashion. Et c'était des objets de parure qui venaient d'Arcis-sur-Cure et c'était la première fois qu'on attribuait à des néandertaliens des objets aussi sophistiqués.
En quelle année ?
97.
Sophie Bécherel.
Alors, de quoi parle-t-on ? Parce que ce site de Jebel Iroud, il en est sorti un crâne en 1961, mais là, la publication s'est concentrée sur les derniers fossiles retrouvés et des silex. Qu'est-ce que vous avez trouvé et en quoi, effectivement, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'on a là de l'homme moderne, Homo sapiens ?
Alors, on avait découvert à Jebel Iroud des fossiles, donc dans les années 60. Alors, malheureusement, qui ont été découverts dans des circonstances un petit peu chaotiques, on va dire. Très peu d'entre eux ont été découverts vraiment en cours de fouilles.
C'était une mine, hein, au départ.
C'était une mine de barytine. Hein. Le premier crâne a été trouvé par des mineurs qui creusaient une galerie. Hein. Ils ne cherchaient pas du tout les Homo sapiens, ils cherchaient de la barytine. Et ils sont tombés sur une poche de sédiments rouges qui s'est effondrée dans la galerie. Et là-dedans, il y avait des silex, des os. Ils ont remis ce crâne humain qu'ils ont trouvé au médecin de la mine. Et c'est comme ça qu'il a finalement été publié un jour.
Il a mis ce crâne dans une boîte avec de la paille, hein,
pour
les détails.
C'est ce qu'il a écrit dans une lettre que je garde, que je relis de temps en temps, parce que je trouve que c'est très touchant d'avoir un document comme ça, historique, sur la découverte d'un fossile. Donc, le problème de ces restes, c'est qu'on ne savait pas trop d'où ils venaient. Leur âge était extrêmement difficile à établir. Il faut quand même se replacer dans le contexte des années 70-80. Aujourd'hui, on considère comme acquis que l'humanité moderne vient d'Afrique. Donc l'homme moderne vient d'Afrique. Il y a très peu de gens qui
remettent en cause.
Qui remettent ça en cause. Toutes les données de la génétique, de la paléontologie nous disent que l'homme vient d'Afrique. Mais en 1965, 68 ou 70, cette idée n'existait même pas. Et donc on savait pas trop quoi faire avec ces fossiles. On les considérait parfois comme des hommes de Néandertal africain ou peut-être une forme un peu archaïque qui aurait survécu dans un coin d'Afrique alors qu'il y avait déjà des hommes modernes ailleurs. Enfin, des scénarios assez problématiques. Et à mes yeux, ils étaient d'autant plus intéressants qu'ils étaient entourés d'un espèce de mystère. Et donc, c'est pour ça que nous avons voulu reprendre l'étude de ce site. Alors, dire que nous n'espérions pas trouver des restes humains, ça serait mentir, parce que quand même, on se disait, on a déjà trouvé 5 ou 6, on va bien en trouver 2 ou 3. En fait, on n'a pas trouvé 2 ou 3, on a multiplié par 4 presque le nombre de fossiles. Donc, on a 22 maintenant.
Appartenant à 5 individus, a priori?
Voilà, au minimum, on a des ossements qui appartiennent à 3 adultes, un adolescent et un enfant. Mais enfin, l'objectif premier, en tout cas officiel, c'était quand même de dater le site et de mieux comprendre la signification à la fois des outillages de pierre et puis des restes humains.
Et ces fossiles seraient datés de plus de 300 000 ans, ce seraient les plus anciens Homo sapiens découverts. On en parle dans un instant, c'est une spéciale Tête au Carré aujourd'hui.
Say something loving. I just don't remember the thrill of affection. I just don't remember.
Say something loving.
I need a reminder. The feelings escaped me.
Been anyone's kiss, throwing my arms at no one. When I gave up, I found love.
The thought flows through my mind, and it's growing all the time. I do myself a disservice to feel this weak, to be this nervous.
You say something loving.
So overwhelming, the thrill of affection feels so unfamiliar. You say something loving, without hesitation, hits me. It feels so unfamiliar. Impatient to meet you. Am I too needy? Am I too eager?
I don't know.
hear me say it. Say yeah. Did you hear me say? I say something loving. I can't hold it inside. The thrill of affection is only getting stronger.
Say something loving avec des XX à l'instant.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Ainsi s'exprime André Leroy-Gourand, professeur au Collège de France, qui est actuellement considéré comme l'un des plus éminents spécialistes mondiaux en matière de paléontologie humaine. Les 25 dernières années ont bouleversé tout ce qui paraissait le plus solidement acquis dans ce domaine. D'abord, l'apparition des premiers hominiens a été incroyablement reculée dans le temps. Ensuite, l'évolution de l'espèce s'est avérée passer par des voies qu'aucun anthropologue n'aurait imaginées voici seulement 50 années. Nous donnons la parole à André Leroy-Gourand.
L'apparition du premier hominien recule dans le temps depuis 10 ans d'une façon absolument impressionnante, car les découvertes de ces toutes dernières années en Éthiopie nous amènent maintenant vers plus de 2 millions d'années, peut-être 3 millions même, pour se trouver en présence des plus lointains ancêtres de l'homme. L'apparition du premier Homo sapiens est situable dans la deuxième partie de la dernière glaciation, c'est-à-dire entre 50 000 et 40 000 ans d'ici. Les témoignages sont très rares. On connaît actuellement d'Homo sapiens anciens peut-être une cinquantaine de sépultures pour le monde entier, avec des squelettes qui sont souvent en très mauvais état et dont on ne peut pas tirer énormément d'informations pour certains d'entre eux.
Voilà, 1976-2017, André Leroy-Gourand du Collège de France, Jean-Jacques Hublin, évidemment, la connaissance a fait beaucoup d'avancées depuis oui, jusqu'à oui. Votre publication hier dans Nature, puisqu'on en est maintenant à 300 000 ans pour Homo sapiens. Sophie Becherel, alors.
Oui, revenons au caractère qui vous font dire qu'on a là affaire à un Homo sapiens ancien, peut-être, plutôt qu'à une autre espèce, par exemple.
Alors, la définition d'espèce en paléontologie, c'est un vaste problème qui pourrait nous occuper pendant toute l'émission. Hein. Et donc, d'un côté, il y a des gens qui sont plutôt des splitters, on dit en anglais, hein, des diviseurs qui créent énormément d'espèces, puis d'autres qui ont tendance à les regrouper. Donc, notre philosophie, c'est, disons, de rassembler dans l'espèce Homo sapiens tous les individus qui ressemblent à l'homme actuel et qui se trouvent sur une même lignée depuis, disons, la séparation avec d'autres formes. Alors ça peut être les Néandertaliens ou d'autres formes africaines. Mais il faut bien quand même comprendre que le long de cette lignée, il y a des changements. L'évolution, ça existe. Voilà, il faut se mettre ça dans la tête. Donc quand on a une espèce, eh bien, elle change au cours du temps. Alors, pourquoi est-ce que nous attribuons ces fossiles à Homo sapiens ? Ben, tout bêtement parce qu'ils possèdent des caractères que l'on ne connaît que chez les hommes modernes, récents, en particulier des caractères de la face et des caractères de la denture qu'on ne connaît nulle part ailleurs. Et donc, ça, ce sont des choses qui les relient directement à nous. En plus, ils sont au bon endroit et au bon moment, si je peux dire, pour être à l'origine des hommes que l'on dit modernes.
Et là, il y avait une mandibule, en l'occurrence, qui était en excellent état, quand même.
Oui. Hein. Alors, en même temps, ces fossiles ont aussi des caractères qui sont des caractères plus primitifs. Et c'est normal, ils ont 300 000 ans. Donc, ce serait très étonnant qu'ils soient exactement comme vous et moi.
Mais vous disiez au Collège de France, si on croisait aujourd'hui cet Homo sapiens archaïque dans le métro, a priori, on ne serait pas très choqué. Hein.
Bon, dans le métro, on voit énormément de choses. Mais effectivement, le visage, c'est quelque chose auquel on est très sensible.
Ouais.
Et le visage de ces hommes, en tout cas, le squelette qu'il y a derrière, c'est un squelette de la face qui rentre complètement dans la variation actuelle. C'est-à-dire que quand on fait une analyse statistique, morphométrique très très sophistiquée, et là c'est pas une impression, c'est une mesure mathématique, eh bien ces gens-là tombent en plein milieu d'un nuage qui est le nuage des hommes actuels. Ça veut dire qu'ils ont une face comme nous.
Alors l'observation, effectivement, morphologique, c'est une chose, mais il faut aller plus loin, j'imagine aussi, pour pouvoir attribuer ces fossiles à la famille Homo sapiens et évidemment les dater.
Alors, on regarde, quand on parle de la morphologie, c'est pas juste la forme extérieure, hein. En particulier, je parlais de caractère dentaire. Bon, aujourd'hui, avec les méthodes de paléanthropologie virtuelle, c'est-à-dire, en gros, créer des modèles virtuels de structures internes du squelette, eh bien, on peut, par exemple, étudier quelque chose que personne ne peut voir, qui est la surface qui sépare la dentine de l'émail dans les dents. C'est une surface très très tourmentée, et cette surface, on peut l'analyser mathématiquement.
Et la dater ?
Là, on parle de morphologie. Et on voit très très bien comment, en utilisant cette méthode-là, on peut grouper des fossiles et comment ces hommes se groupent avec les hommes modernes. Alors, la datation de Jebel Iroud, c'est quelque chose qui est essentiellement établi non pas sur les restes humains eux-mêmes, mais sur les dépôts archéologiques qui les contiennent.
Jebel Iroud, donc, c'est ce site du Maroc en l'occurrence. Alors Yves, sur franceinter.fr, demande comment justement se déroulent des fouilles dans un site qui est déjà très ancien et qui a été travaillé à maintes reprises, avec effectivement un site retourné
et abîmé,
très abîmé.
C'est une carrière.
Alors, c'est très compliqué, hein, d'abord parce que évidemment c'est quand même un petit peu isolé, hein, donc il y a des problèmes logistiques. Ce site, il a été dévasté par une exploitation minière. Il a été un petit peu fouillé dans les années 60, mais ensuite il a été abandonné et c'est devenu une espèce de carrière avec des dépôts de déblais, de blocs. Je dois dire que j'ai visité le site plusieurs fois dans les années 90, même 80. J'aurais vraiment aimé reprendre des travaux, mais c'était impossible. C'est seulement quand j'ai commencé à travailler avec la société Max Planck, en gros, j'ai envisagé la possibilité d'avoir les moyens de réaménager la route pour aller jusqu'au gisement, d'amener un bulldozer, une pelle mécanique, un camion, et puis de nettoyer ça. Donc il y a eu deux saisons de fouilles qui n'ont pas vraiment été des fouilles, qui ont été plus du terrassement qu'autre chose. Et donc on a de façon très soigneuse enlevé tout ce qui n'était pas des niveaux archéologiques. On était très content qu'il en reste, mais c'est vrai que ensuite ça a pris l'allure un peu d'une opération de sauvetage, parce qu'il restait en fait assez peu de ce site collé contre une paroi. Et voilà, on l'a nettoyé, on a commencé à fouiller ça par le haut, et surtout, on a pratiqué toute une série de mesures dans les sédiments pour justement obtenir cette datation dont on parle depuis un moment et qui est si importante.
Juste, Jean-Jacques Hublin, c'est ce crâne des années 60 qui vous a donné envie d'aller plus loin au début des années 2000. Enfin, il faut quand même être très convaincu par ces recherches dans ce fatras là que vous décrivez.
Pour tout dire, en fait, mon rapport avec le site du Jebel Iroud a commencé quand j'étais un très jeune chercheur, parce que le professeur Pifto, qui était un académicien et l'auteur d'un traité de paléontologie très connu, un jour m'a dit « Est-ce que vous seriez intéressé par l'étude d'une petite mandibule d'enfant ?» C'était une des pièces trouvées dans les années 60. Alors, moi, je trouvais ça formidable. J'avais jamais vraiment décrit un spécimen original. Ça a été mon premier article décrivant une pièce originale. Un article que j'ai écrit avec une collègue qui s'appelle Anne-Marie Tillier, qui a fait ensuite une carrière à Bordeaux. Et dès l'époque, en fait, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur les autres pièces qui avaient été découvertes dans le site. Et
mais à l'époque, cette mandibule, vous l'attribuiez à Homo sapiens ou pas ?
Oui. Alors à l'époque, j'ai publié un article qui a été reçu avec un certain scepticisme. On voyait déjà dans cette petite mandibule une combinaison de caractères archaïques et de caractères modernes, en particulier un menton osseux qui est une caractéristique qui est propre à l'homme moderne et qui était déjà présente. Et donc le problème à l'époque, c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'on ne savait pas l'âge de ce Jebel Iroud.
Venons-en à l'âge, puisque jusqu'à hier, les plus anciens fossiles étaient donc, enfin, qu'on attribuait à Homo sapiens, c'était en Éthiopie, en Afrique de l'Est. Vous reculez le curseur. Comment, quelle méthode avez-vous utilisée pour dater vos fossiles? Et peut-être que l'environnement aussi sert à donner une information.
Avant de parler de l'âge du site, je voudrais faire une remarque un peu liminaire. Ce qui est vraiment très important à propos de Jebel Irhoud, c'est que c'est un site stratifié. On a une série de couches avec des dépôts qui contiennent de l'archéologie, des restes de faune, des restes humains, tout un tas de choses. Ça paraît trivial de dire ça, mais en réalité, beaucoup de découvertes qui ont été opérées en Afrique, en particulier des restes humains, ont été faites dans une situation, par exemple, de prospection. Les gens ont ramassé des restes osseux qui étaient à la surface du sol. Souvent, il y a des questions à propos du contexte archéologique, d'où est-ce qu'ils viennent, en fait, dans la géologie, de la datation. Et donc, ça, c'est extrêmement précieux. Alors, à Jebel Irhoud, on a une chance extraordinaire, c'est que les hommes de Jebel Irhoud aimaient faire du feu. Donc, ils ont fait du feu. On ne sait pas pourquoi, mais ils ont fait énormément de feu. Il y a partout des traces de cendres, de charbon, d'os brûlé. Et alors, en faisant du feu, ils ont chauffé accidentellement des éclats de silex qui étaient dans les sédiments. Donc, 10 cm en dessous d'un feu, ces éclats sont chauffés. Là encore, ça peut paraître être sans grand intérêt, mais le fait est que le silex, quand il est enfoui dans des sédiments, eh bien, au fil du temps, il emmagasine de l'énergie parce qu'il est entouré de sédiments qui sont faiblement radioactifs. La radioactivité, ça existe partout, même dans ce studio, hein, un niveau très très faible. Et donc, ils emmagasinent de l'énergie. Et cette énergie, lorsqu'on chauffe un morceau de silex, elle est libérée sous forme de lumière. C'est un flash électronique. Quand on appuie sur le bouton, il se vide et on remet la batterie à zéro. Et ensuite, au cours du temps, eh bien, le morceau de silex va se, entre guillemets, recharger en énergie. Donc, si on mesure la radioactivité locale des sédiments et si on rechauffe le morceau de silex et qu'on mesure la quantité de lumière, on peut calculer son âge.
Donc, c'est cet environnement des fossiles que vous avez pu dater par ce biais-là.
Voilà. Donc, on a pu, grâce à ça, obtenir toute une série de dates dans la stratigraphie, montrer que ces dates, elles étaient cohérentes entre elles, parce que c'est très important que les dates, les couches les plus basses soient les plus anciennes. Et puis alors, il y avait une date qui avait été tentée avec une autre méthode qui s'appelle l'ESR, une méthode différente. Cette date-là, sur une des dents de cette fameuse petite mandibule dont je parlais tout à l'heure. Et là encore, l'ESR, c'est quelque chose qui suppose qu'on connaisse la dosimétrie, c'est-à-dire la radioactivité ambiante. On a donné nos résultats au chercheur qui avait établi cet âge il y a très longtemps. Il a pu le recalculer avec une vraie mesure de cette radioactivité des sédiments. Et la date qu'il a obtenue, c'est une date qui est très proche de la date qu'on a obtenue avec cette méthode qui s'appelle la thermoluminescence et qui permet de mesurer l'âge de silex brûlé.
Dater les silex brûlés, ça n'est pas dater les fossiles humains. Voilà. Du coup, comment est-ce que vous faites le lien? Ça signifie que ces silex et ces éclats de silex étaient forcément les outils de ces hommes-là?
Oui, alors il faut quand même bien voir la situation. On a un empilement de couches. Sur 3 mètres d'épaisseur, chaque couche contient des outillages, des ossements, parfois des ossements humains. A priori, sauf s'il y a une énorme perturbation du site, on n'a aucune raison de penser que des objets qui sont dans le même niveau vont avoir des âges complètement différents.
Pourtant, le site a été perturbé, d'après ce que
vous
disiez.
Non, mais il a été, quand on dit perturbé, on veut dire qu'il y en a une partie qui a été détruite. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme si vous prenez un gâteau avec des couches de biscuits et de crème, vous en coupez une part. Oui, ça perturbe le gâteau. Mais là où on n'a pas touché, eh bien, la crème, elle est toujours au bon endroit par rapport aux couches de biscuits.
Jean-Jacques Hublin, on va écouter Daniel Richter, qui était à vos côtés au Collège de France il y a deux jours pour la conférence de presse avant la publication. Donc, hier, il est expert en géochronologie et il fait partie de votre équipe et il va nous parler justement de cette technique de thermoluminescence.
On a de la radioactivité naturelle partout dans l'environnement à un niveau très bas, y compris dans les sédiments. Cette énergie est stockée dans les structures cristallines. Nous avons appliqué cette propriété pour les silex du site. Lorsque les silex sont chauffés dans un feu, par exemple, ils relarguent cette énergie. Comme l'a expliqué Jean-Jacques, nous pensons qu'il s'agissait d'un chauffage accidentel. Avec le feu, l'horloge est donc remise à zéro. Il est possible de mesurer cette énergie stockée par la technique de la thermoluminescence. Si nous mesurons quelle quantité de radiation est présente dans le site où les silex ont été trouvés, il est possible de déterminer leur âge. On divise l'énergie stockée dans ces silex jusqu'à ce qu'on la mesure en laboratoire par le niveau d'énergie enregistré sur le site par unité de temps.
Voilà, donc explication de cette technique de thermoluminescence. Il y a François sur franceinter.fr qui nous demande quelle est la différence entre la thermoluminescence ou le carbone 14, dont on entend beaucoup parler aussi, et la résonance de spin électronique. Autre technique que vous avez utilisée, hein, Jean-Jacques Hublin.
Alors le carbone 14, c'est une méthode qui ne peut pas du tout s'appliquer dans des sites de cet âge-là. Puisque
trop ancien.
Avec le carbone 14, on ne remonte pas au-delà de 50 000 ans, en gros. Alors, le carbone 14, c'est fondé sur la désintégration d'une forme de carbone assez rare qui est radioactive et qui se désintègre au cours du temps. Donc tant qu'un organisme est vivant et qu'il respire, eh bien il fixe du carbone 14 contenu dans l'atmosphère. Quand il meurt, il arrête de respirer et donc là à ce moment-là, ce carbone 14 va diminuer au cours du temps. Pour ce qui est de l'ESR, c'est une méthode qui a un certain rapport avec la thermoluminescence. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi une histoire d'amener des électrons sur des niveaux d'énergie plus élevés à cause de l'environnement qui les stimule. Mais c'est une méthode qui ne s'applique pas du tout au même genre de matériaux. En général, on utilise l'ESR sur de l'émail dentaire.
Ce qui était le cas, là. Donc,
et d'ailleurs, c'est ce qui a permis de dater une des dents
de la mandibule
d'un des spécimens humains et de voir que, ma foi, cet âge n'est pas exactement identique à celui des silex brûlés, mais
alors
avec l'incertitude.
C'est quoi la différence entre les deux?
Je crois qu'il y a 20 000 ans de différence en moyenne. Alors, ça paraît énorme, 20 000 ans, mais quand on est à 315 000 et que les erreurs, un écart type de chaque côté, c'est à peu près 25 000, bon, on est assez content parce qu'en fait, on voit bien que toutes ces mesures se recouvrent avec une bande de recouvrement qui, en fait, est assez étroite et qui est autour de 300 000 ans.
Ouais. Et une question de Michel qui nous dit ceci. Je trouve qu'il faut relativiser cette découverte car il faut également aborder les découvertes faites en Afrique du Sud. On a trouvé des Homo sapiens de 260 000 ans, ce qui donne 40 000 ans d'avance aux Marocains. Mais avec la marge d'erreur, finalement, on est à peu près dans le même écart, même datation. Qu'est-ce que vous répondez? Il y a une bataille, là. Hein, il y a une compétition des fossiles. Hein, c'est
non,
terrible.
Je veux pas critiquer l'Afrique du Sud, puisque nous-mêmes...
Parce que Sophie parlait de l'Éthiopie pour les plus anciens jusqu'à maintenant, 160 000, c'est ça, à peu près 195 ?
195.
Voilà. Mmh. Et en Afrique du Sud, on a aussi découvert des fossiles d'Homo sapiens.
Alors, cet auditeur fait référence à un morceau de crâne dont on parle dans notre article, qui a été découvert d'un site qui s'appelle Florisbad. Donc, ce morceau de crâne de Florisbad, on le gardait quand même un peu sous le tapis depuis un bon moment. Pour deux raisons. D'abord, c'est un spécimen qui est quand même assez fragmentaire. C'est-à-dire qu'à Djebel Erud, on a quand même trois crânes, des mandibules. Enfin, c'est la plus belle série de fossiles qu'on ait pour cette époque-là en Afrique. On peut étudier tout un tas de caractères. Bon, Florisbad, c'est un bout de calotte crânienne avec un morceau de la face assez mal conservé. Et surtout, l'âge de 260 000 ans, dans le fond, il est quand même assez incertain. Hein. C'est-à-dire que il y a un degré de précision, de certitude, qui est complètement différent dans le cas de Djebel Erud et de ce spécimen de Florisbad.
300 000 ans donc pour ces fossiles d'Homo sapiens. Vous restez avec nous, Jean-Jacques Hublin. Vous êtes l'invité de cette Tête au Carré. Avec beaucoup de messages des auditeurs, on va consacrer la dernière partie aux réponses des questions. Merci. Cadillac. He went cruising down the bill. Casbah, les Clash sur France Inter.
L'avantage des Roods, c'est que c'est le premier fossile d'Homo sapiens très ancien dont la datation soit véritablement démontrée. Donc 300 000 ans donne un point de départ pour réestimer tous les Homo sapiens archaïques.
Voilà, c'était la voix d'Yves Coppens qui était au premier rang un mercredi au Collège de France et évidemment vous le connaissez très très bien.
Ah, il n'a pas manqué ça. Ouais. Je lui ai dit qu'on allait avoir une conférence de presse. Il m'a dit j'arrive.
Ouais. Il a été votre directeur de thèse, Jean-Jacques Hublin ou pas hein?
Non, il n'a pas vraiment été mon directeur de thèse. Mais enfin, il m'a énormément soutenu quand j'étais jeune chercheur.
Ouais. Sophie.
Cette découverte au Maroc pourrait faire penser que, et d'ailleurs les titres des journaux le montrent, que c'est ça qui importe et qui bouleverse les choses, c'est-à-dire que l'homme, voilà, ne serait plus, ses origines ne seraient plus en Afrique de l'Est, mais au Maghreb. Or, en fait, vous défendez une autre thèse, c'est-à-dire peu importe l'endroit où on a trouvé ces fossiles. On sait juste maintenant que l'origine de l'homme, elle est peut-être partout, de l'homme moderne, elle est partout en Afrique.
Notre idée, c'est que, en fait, quand on met ensemble, justement, cet homme de Florisbad dont on parlait tout à l'heure, et d'autres découvertes qui sont...
En Afrique du Sud.
Oui, en Afrique du Sud. Et pas seulement des découvertes de fossiles, mais aussi les outils que fabriquent ces hommes et qu'on attribue à quelque chose qu'on appelle le Middle Stone Age. On voit très bien ce Middle Stone Age et ces Homo sapiens archaïques apparaître un peu partout en Afrique après 300 000 ans. Donc notre idée, c'est que à 300 000 ans, ils sont déjà partout. Et donc, ce qui va se passer ensuite, c'est qu'ils vont donner naissance à ce qu'on appelle des hommes modernes, ceux qui vont sortir d'Afrique, des hommes comme nous. Et l'idée que nous avons, c'est que c'est un phénomène panafricain. C'est-à-dire que c'est un peu... Bon, il y a un petit côté nationaliste et puis aussi glorieux personnel de dire, voilà, j'ai le berceau de l'humanité en Afrique du Sud.
Mais il n'y a pas de berceau.
Mais en fait, moi, je pense que s'il y a un jardin d'Éden, il a la taille de l'Afrique.
Ouais.
C'est le jardin d'Éden, c'est l'Afrique. Nous sommes tous sortis d'Afrique, mais je ne crois pas que nous sommes sortis d'un point particulier d'Afrique.
Et alors, ces outils que l'on retrouve ailleurs en Afrique du même âge, ça signifie qu'on n'a pas les fossiles humains avec, mais que sûrement il y avait ces mêmes hommes?
On a de bonnes raisons de penser qu'il y a une association entre l'apparition de ces premières formes de Middle Stone Age, hein, ce type d'outils, et puis ces Homo sapiens archaïques. Alors surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Afrique du passé, ça n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui.
Ah oui, vous avez montré une carte au Collège de France, là aussi, c'est étonnant.
Il y a
étonnant,
eu des fluctuations climatiques très très fortes. D'une façon générale, le continent est devenu de plus en plus aride au cours des dernières centaines de milliers d'années. Et il y a eu plusieurs périodes qu'on appelle des périodes de Sahara vert, qui portent bien leur nom. C'est-à-dire que, en fait, le Sahara, non seulement il est vert, mais il n'y a plus de Sahara, en fait. C'est-à-dire qu'on a... une surface qui est grande, comme les États-Unis d'Amérique, hein, le Sahara, c'est très grand, qui est couverte par des savanes, des prairies, parfois même arborées, avec des rivières, des lacs qui peuvent être grands comme l'Allemagne, hein, pas des petits lacs, et puis des girafes, des éléphants, des zèbres, et des gazelles que chassent nos hommes de Jebel Iroud. Alors non seulement on a des faunes qui sont très proches des faunes qu'on a en Afrique de l'Est ou dans d'autres parties d'Afrique, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a des gens qui vivent dans cette immensité, et donc des groupes de chasseurs-cueilleurs qui connaissent des périodes d'isolement quand l'aridité monte, donc des régions où l'évolution humaine se fait un petit peu en vase clos, et puis d'autres époques où il y a des connexions entre tous ces groupes, des échanges de gènes, d'innovation, de comportements nouveaux. Et c'est peut-être cette espèce de bouillonnement, si je peux dire, du continent africain au cours des derniers 200 ou 300 000 ans qui ont donné naissance à une forme d'homme qui n'existait nulle part ailleurs sur la planète, qui a développé une complexité sociale, une complexité technique, qui fait que c'est peut-être pour ça qu'elle a remplacé toutes les autres formes humaines quand elle a commencé à se répandre hors d'Afrique.
Oui, parce qu'à l'époque, il y a 300 000 ans, donc il y avait Homo sapiens, mais on n'était pas seul. Hein.
Alors, aujourd'hui, sur Terre, il y a une seule espèce humaine, heureusement d'ailleurs, et on est habitué à cette idée-là. On a du mal à imaginer...
Pourquoi heureusement, Jean-Jacques Hublin, ce serait pas mal de fréquenter d'autres espèces
ça serait un peu... Lisez les animaux. Les animaux dénaturés, vous verrez. Ce sera un peu compliqué. Mais il faut bien se rendre compte que cette situation d'une espèce unique, très homogène, avec une origine commune récente, c'est une situation qui ne s'est jamais produite dans le passé, quasiment. On a eu, en remontant simplement 100 000 ans en arrière, des Néandertals qui vivaient en Europe, des Denisoviens en Asie, les hommes de Flores... dans une île indonésienne, des ancêtres des hommes modernes en Afrique. On a daté récemment ce fameux Homo naledi, ce petit bonhomme avec un cerveau gros comme un pamplemousse en Afrique du Sud, alors qu'il aurait peut-être survécu jusqu'à 300 000 ans. On n'est pas à 100 000 ans, mais enfin, à l'époque de Jebel Iroud, il y avait peut-être, même à l'intérieur de l'Afrique, différentes formes... Très différentes.
Allez, Jean-Jacques Hublin, on va consacrer les 10 dernières minutes aux questions des auditeurs parce qu'elles sont nombreuses et très intéressantes également. Loïc demande, est-ce qu'on peut estimer le nombre d'Homo sapiens qui existait à l'époque ? Difficile, hein ?
Alors ça, c'est très très difficile. C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Les gens ont essayé de faire de la paléodémographie. C'est difficile de parler de toute l'Afrique. Mais quand on parle par exemple des hommes de Néandertal en Europe... On a des estimations qui sont un peu plus précises. Mmh. Il faut se rendre compte que pendant une période froide, eh bien, on pouvait avoir pour toute l'Europe une population néandertalienne peut-être de 10 ou 20 000 individus. Donc, c'est-à-dire une petite ville actuelle, un gros village réparti sur l'Europe.
Ensemble,
Et donc, le monde paléolithique, c'est un monde vide. C'est un monde où il y a très peu de monde, justement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à garder en tête pour comprendre l'évolution. Justement, par exemple, l'accumulation d'innovations chez ces hommes anciens.
Et Yvan demande, est-ce qu'on a des indications concernant le mode de vie de ces individus ? Alors, avec les silex, avec les animaux chassés, peut-être ?
Alors, il y a certaines parties du comportement qui sont, je dirais, assez faciles à reconstituer. Donc, ce sont des chasseurs, cueilleurs. À Jebel Iroud, ils chassent beaucoup des gazelles, un peu des zèbres. Alors, ils fabriquent des outils en pierre, beaucoup de pointes. On pense qu'il y a toute une armurerie, si je peux dire, que l'on n'a pas parce qu'on n'a pas le bois. Mais toutes ces pointes, elles vont probablement au bout de quelque chose. Voilà. Et puis, donc, ils utilisent le feu. On connaît très très bien les techniques de taille du silex. Ce qui nous manque, dans le fond, le plus pour ces périodes lointaines, c'est tout ce qui relève de la... J'allais dire des relations interpersonnelles, des relations entre groupes. Alors, ça paraît un peu nunuche de parler de ça, mais moi, j'aime bien en parler. Je pense que tout ce qui est du domaine de l'affectif, par exemple, c'est quelque chose qui est très important pour définir ce qu'est un homme. C'est un homme actuel, c'est pas juste une créature qui est très maligne et qui fabrique des iPhones. C'est aussi une créature qui est capable d'altruisme, de sacrifice.
Mais la thermoluminescence peut rien nous dire là-dessus.
Bien savoir quand c'est apparu sous cette forme-là, en tout cas.
Terre à Terre sur Twitter demande jusqu'à quel âge pourrait-on aller en théorie pour l'origine d'Homo sapiens ? Est-ce que 500 000 ans serait vraisemblable ? Et on pousse encore 200 000 ans, Jean-Jacques Hublin.
Oui, alors Coppens, il aime bien dire que de toute façon, dès qu'on donne une date, elle est fausse, vaut mieux rajouter 25%, comme ça on est tranquille. Il a un peu raison quand même, c'est-à-dire que, évidemment, à 300 000 ans, on voit que tous ces Homo sapiens archaïques sont présents probablement dans différentes parties d'Afrique. Il y a probablement en amont un point d'origine et peut-être même un point géographique d'origine.
Hein. Ah oui. Donc,
ah bah c'est possible.
Alors ça, mais, ce serait le vrai berceau pour le coup.
Oui, mais il y a aucune raison de dire c'est en Afrique de l'Est ou au Maghreb ou ailleurs parce qu'on n'a pas de documentation. Ouais. Il faut bien comprendre une chose, c'est que on connaît beaucoup plus de choses sur l'évolution de l'homme de Néandertal qu'on en sait sur l'origine et l'évolution de notre propre espèce. Le continent africain, c'est un continent gigantesque, et on a en fait très peu de fossiles. Il y a des régions entières pour lesquelles on ne sait absolument rien de ce qui s'est passé.
Mais vous avez une idée sur la question, ou pas personnellement, comme ça, une hypothèse sur ce berceau originel?
Non, pas vraiment. Non. Je veux pas m'avancer dans cette direction-là. Mais ce qui est vrai, c'est que bon, on sait qu'il y a un point de divergence entre la lignée Néandertal et la lignée qui mène vers nous, vers 600 000 ou quelque chose comme ça. En fait, la vraie question, c'est, je parlais tout à l'heure du mystère de pourquoi les hommes modernes, finalement, se sont répandus partout, ont remplacé toutes les autres groupes. Ça, c'est une question vraiment qui est très prégnante. Une autre question qui est, qu'est-ce qui se passe entre 300 000 et 600 000 en Afrique? Oui. Et là, c'est un point de l'arbre évolutif qui est un point très flou. Donc, il est possible qu'il y ait des homo sapiens plus anciens et il est certain qu'il y a d'autres groupes qui existent. On a des fossiles qu'on attribue à d'autres espèces, mais là encore, qui sont mal datés. Il y a un gros travail à faire sur...
Mais Homo sapiens aurait pu précéder Néandertal, par exemple, ou pas?
Néandertal, les plus vieux, ils sont à 400 000.
Oui, donc on n'est pas loin quand
on
même.
On n'est pas loin, à mon avis. Non, mais à mon avis, c'est... On dit toujours que Néandertal et l'Homo sapiens, ce sont des espèces sœurs. Ouais. Elles sont sœurs à différents points de vue. Hein. Elles sont sœurs parce qu'elles évoluent à peu près à la même époque. Mais il y a des tas d'aspects. Par exemple, cette complexification du cerveau qu'on observe chez l'homme, chez les ancêtres de l'homme moderne, eh bien, on l'observe chez les Néandertaliens aussi, avec des processus différents et un produit final différent.
Sophie.
On aura compris que vous manquez de fossiles. Si vous manquez de fossiles, notamment en Afrique, c'est parce qu'on ne les cherche pas, faute de moyens financiers par exemple, ou bien parce qu'ils ont été détruits, ils ne sont plus là.
Un peu les deux, en fait. Hein. C'est-à-dire que, d'abord, il y a des raisons historiques. La paléanthropologie s'est née en Europe au milieu du 19e siècle. En 1856, on a le premier homme de Néandertal qui est identifié comme un homme de Néandertal. Depuis, on n'a pas arrêté. Donc on a cherché, trouvé, on a des centaines de fossiles d'hommes de Néandertal. La préhistoire, la paléontologie africaine, ça commence en 1930. Donc, on est dans une échelle de temps complètement différente. Ensuite, il y a, des régions d'Afrique où il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits parce que les conditions géologiques sont très favorables, l'Afrique de l'Est en particulier. Vous savez, les chercheurs, ils sont comme tout le monde.
Ils vont là où c'est facile.
Ils veulent un retour sur investissement. Donc, il vaut mieux investir sur un projet dans une région où on est sûr d'avoir quelque chose que d'aller se lancer dans quelque chose très, très hasardeux. Et donc, il y a des régions qui ont été très, très négligées. Après, il y a aussi des raisons environnementales. Hein. La forêt équatoriale, c'est pas un endroit génial pour trouver des fossiles. Hein. Il y a même très peu de chances qu'on en trouve. Et puis, alors, maintenant, s'ajoutent d'autres considérations de sécurité.
Contexte géopolitique.
Qui est-ce qui a envie d'aller faire de la prospection au Mali? Je sais pas, c'est un peu compliqué.
Hein. Et Patrice demande quelles seraient les conditions environnementales qui permettraient d'avoir une chance de prélèvement ADN de reste de
Homo sapiens. Ah oui, alors ça c'est une question très intéressante. Tout le monde me dit, mais alors, parce que mon institut est connu pour les études
avec Néandertal.
Hein. Alors pourquoi, que donne l'ADN ancien de Djebel Iroud? Malheureusement, il n'y a pas d'ADN ancien à Djebel Iroud, et pour une raison simple, c'est que c'est trop vieux et il fait trop chaud. Et voilà, ce sont les deux raisons pour lesquelles l'ADN disparaît, et donc on n'a pas d'ADN ancien en Afrique. Cela étant dit, enfin d'ADN ancien, disons au-delà de 20 000 ans, cela étant dit, il ne faut pas désespérer, on trouvera peut-être en Afrique un gisement ou des gisements, par exemple comme Cima de los Huesos en Espagne, c'est-à-dire un karst profond, un réseau karstique avec une température fraîche, basse, stable.
Constante.
Et on aura peut-être la chance d'avoir de l'ADN ancien en Afrique un jour.
Allez, très très vite, deux autres questions. Château Vaudière sur Twitter. Comment comprendre qu'avec 20 000 individus, l'espèce ne se soit pas épuisée par consanguinité?
Ah ben c'est pas mal, 20 000. Déjà, il y a de quoi se reproduire. Hein. On a
ça
le
fait
choix.
Pas mal de partenaires. Oui, ouais. Oui, oui. Stéphanie demande, à quel moment avez-vous pris conscience de l'importance de ces fossiles et pourquoi cette découverte n'a été annoncée qu'hier, donc à 19h?
Alors, bon, moi, je suis persuadé de l'importance de ces fossiles depuis très longtemps. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais c'est vrai que il faut bien comprendre que derrière ces deux articles de Nature qui font quelques pages, il y a un travail énorme, il y a un travail de terrain, il y a un travail de découverte, il y a un travail de préparation, il y a un travail de datation. Et puis surtout, mon équipe travaille depuis plusieurs années sur ces problèmes d'évolution de la face, d'évolution du cerveau, d'évolution de la denture, et on a produit au cours, disons, des 10 dernières années, une bonne vingtaine d'articles scientifiques sur ces différents sujets. Et c'est ce travail-là hein, qui représente, dans le fond, l'infrastructure de ce papier, hein, ce papier de quelques pages, mais qui, dans le fond, est le point d'orgue de tous ces travaux et qui nous permet d'interpréter et de comprendre ce matériel.
Très vite, Sophie,
en
très
science,
très vite.
C'est pas comme vous écrivez au Monde une tribune et puis il vous la publie. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas Jean-Jacques Hublin qui a décidé de faire la une de Nature. C'est le temps de la science qui est extrêmement long et puis les pairs qui valident ou ne valident pas le résultat de nos recherches scientifiques.
Voilà, et cette une magnifique d'ailleurs de Nature avec ce crâne d'Homo sapiens vieux de 300 000 ans qui est publié.
Cette seconde couverture est mieux que la première.
Elle est très belle, elle est à voir sur le site de La Tête au Carré. Et puis on va se retrouver à 17h dans votre bureau au Collège de France, Jean-Jacques Hublin, avec Axel Villard, pour un Facebook Live pendant lequel vous allez nous montrer des fossiles, justement, et répondre à toutes les questions des internautes. Il suffira de se connecter sur la page Facebook de La Tête au Carré. Donc tout à l'heure, 17h, 18h, en live pour poursuivre la discussion avec les fossiles marocains. Merci infiniment, Jean-Jacques Hublin, d'être venu aujourd'hui dans La Tête au Carré. Félicitations à vous et à votre équipe. Et Sophie, merci beaucoup. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Villard.
Le programme d'Affaires Sensibles dans un instant.
Et l'histoire d'un navigateur prisonnier des mers du Sud, c'est l'aventure de Yann Eliès dans le Vendée Globe, édition 2008-2009, avec deux invités, Denis Hureau, qui était le directeur de la course à l'époque, et Erwan Steff, chef de l'équipe Generali, au moment de l'accident. Generali, c'est le nom du bateau hein, d'Eliès.
Merci beaucoup à vous, et merci à Grégory Wallon et Arnaud Caillet, France Inter, 15h.